Je suis content aussi de voir des personnes, une dame qui est venue la deuxième fois, la mère de Dr. Israël qui est ici avec nous. Et soyez tous les bienvenus cet après-midi. J'espère que je vais être le plus détendu que possible et j'espère que vous allez pouvoir donc bénéficier au maximum de ces messages prophétiques. Je crois que je dois aller en arrière et vous dire que la chrétienté a laissé, la chrétienté qui englobe 2 milliards de personnes sur Terre. Hein, alors ces 2 milliards de gens qui se réclament le christianisme, ils ont une certaine croyance. Et je connais cette croyance parce que je l'avais. C'était ce que je croyais moi-même. Voilà ce que la quasi-totalité des gens croient quand on leur parle. Et si vous parlez de la mort, de tout ça, ils vont vous dire, je crois que quand on meurt, on dort, et cela jusqu'à la résurrection, la grande résurrection à la fin des temps. À cette grande résurrection, nous allons nous lever, et on va paraître devant le trône de Dieu. Et quand on sera devant le trône de Dieu, il va nous dire, d'après les œuvres que nous avons faites ou pas faites, si nous allons rester au ciel ou si nous allons aller en enfer. Voilà, c'est clair, c'est simple. Et voilà ce que la quasi-totalité des gens croient. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Rien du tout. Tout est fabriqué d'après certains versets qui ont été extirpés des passages bibliques, parce que quand on lit la Bible, il faut prendre chaque texte dans son contexte. Autrement, ça devient un prétexte. La Bible, ce que je tiens dans ma main, c'est le seul livre au monde qui prédit l'avenir avec une précision incroyable. J'aimerais vous dire que dans l'Ancien Testament, il y a les prédictions de ce qui va se passer avec la ville de Babylone. Et quand on lit, c'était prédit avant la destruction de Babylone, et quand on lit les passages et on voit Babylone aujourd'hui, c'est une description parfaite, exactement ce qui se passait. Tyr, c'est pareil. Vous prenez toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, la conquête d'Israël, toutes ces choses-là, et surtout la mort de Christ. Même ce qu'il allait dire sur la croix a été prédit plus de 1500 ans avant, qu'il sera cloué sur une croix. Tout cela avec une telle précision que nous pouvons donc être sûr et certain de ce qui est prédit pour l'avenir va arriver à la lettre. Et tout a été prédit, nous savons exactement ce qui va se passer, et c'est fascinant d'ailleurs. C'est fascinant de lire la Bible, le seul livre au monde qui prédit l'avenir. Et nous allons le regarder, on va commencer ce soir, on va voir dans les jours à venir. Par exemple, pour la résurrection, qu'est-ce qui va se passer, la résurrection? Est-ce qu'il y aura une résurrection à la fin des temps, tout à fait à la fin? Oui. Est-ce que les gens vont paraître devant Dieu? Oui. Est-ce que Dieu va les juger? Oui. Mais alors vous dites, mais c'est exactement ce que... Eh non. Parce que il y a, dans la parole de Dieu, en Apocalypse, ça dit... C'est la deuxième résurrection. La deuxième, ça veut dire qu'il y avait une première résurrection. Et la Bible ajoute, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Alors, à la première résurrection, il n'y aura que ceux qui vont au ciel et qui vont y rester. Ce sont des saints. Ce sont des... Quand je dis le mot saint, ça vous effraie. Je veux dire par cela, ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, ça vous comprenez mieux. Ceux qui sont lavés, alors oui, ils sont des saints quand même, mais voilà. Et ils seront enlevés dans la première résurrection. Et ceux qui seront ressuscités dans la deuxième résurrection, ils seront jugés d'après leurs œuvres pour savoir quelle punition ils auront pendant l'éternité. Il n'y aura personne sauvé dans la deuxième résurrection. La deuxième résurrection à la fin des temps, c'est pour les incrédules, c'est pour les damnés, c'est pour ceux qui seront pour l'éternité loin de Dieu. Parlons de l'enfer. Vous savez, c'est un sujet que je n'aime pas traiter souvent, hein, l'enfer. Mais je suis obligé parce que Dieu le traite. On ne peut pas dire, voilà, ça n'existe pas, surtout que Jésus-Christ a parlé plus de l'enfer qu'il n'a parlé du ciel. Donc on ne peut pas dire, ça n'existe pas. Dieu dit que ceux qui sont rebelles, qui ont vécu toute leur vie en dehors de Dieu, qui ne se sont pas souciés de leurs âmes, mais la Bible dit, ils n'échapperont pas. Ils seront pour toujours perdus. Perdus. Bon. Mais ça, ce n'est pas mon message ce soir. J'ai quelque chose de beau pour vous ce soir. L'enlèvement de l'Église. Quand je dis ce mot, vous savez que la quasi-totalité de tous les chrétiens sur terre, la chrétienté, je veux dire la chrétienté, tous ceux qui se réclament du christianisme, ne connaissent même pas cette expression, l'enlèvement de l'Église. Ils n'ont jamais entendu ça. Donc vous êtes parmi les privilégiés ici. Hein? Profitez-en. Goûtez ça à plein, parce que vous pouvez le dire aux autres. Vous savez que c'est avec ça que j'ai accepté le Seigneur. Je vais demander maintenant à David de lire le passage clé sur l'enlèvement de l'Église. Il va le lire doucement pour que chaque mot ait un effet. Et puis, on va le voir ensemble. Vous allez voir les choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Allez-y.
1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18.
Alors, gardez votre doigt dessus. Si vous avez votre Bible, gardez votre doigt sur le passage même.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen.
Cela, c'est merci. Ça, c'est le passage clé sur l'enlèvement de l'Église. Ceci ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. C'est nouveau. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, il est question que Christ va revenir un jour sur terre, qu'il va régner. On lit tout cela, mais il n'y a aucune mention de l'enlèvement de l'Église. Aucune. D'ailleurs, en Corinthiens chapitre 15, je vais essayer. Vous savez que je ne vois pas très clair hein, en ce qui concerne mes yeux. Non, il faut préciser toujours des choses. En Corinthiens 15, à la fin du chapitre. En Corinthiens 15, il dit, je suis dans les à peu près 54 par là, 53, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, s'accomplira la parole de Dieu. Je crois que je suis allé assez bien là. Il parle du mystère. 53? Ok, 51 à 53. Alors là, il parle de la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ résisteront incorruptibles et nous serons changés. Il parle là d'un mystère. Et ça, je vous déclare, je vous annonce, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Le mot mystère dans la Bible ne veut pas dire mystérieux. Le mot mystère veut dire quelque chose qui n'a pas été révélé auparavant, mais maintenant qui est révélé à l'instant même. Il y a plusieurs mystères dans la Bible. Le mystère de Christ en nous, le mystère que les Juifs et les non-Juifs deviendront un en Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient une place privilégiée. Ils étaient le peuple de Dieu. D'ailleurs, ils sont toujours le peuple de Dieu terrestre. Mais Dieu maintenant a un peuple de Dieu céleste aussi, composé des Juifs et des non-Juifs. Donc, dans la Bible, il n'est pas mentionné nulle part dans l'Ancien Testament qu'un jour nous serons enlevés sans mourir. Oh, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y a des exemples. Par exemple, Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus, car Dieu le prit. J'aime beaucoup ce que la petite fille a dit. Elle est allée à l'école de dimanche et elle est revenue et sa maman lui a dit, « Alors dis-moi, qu'est-ce que l'institutrice a dit ce matin ?»« Oh, c'était très intéressant. » »« Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit ?» Eh bien, il a dit que il y avait un homme, Enoch, qui marcha tous les jours avec Dieu, tout le temps. Et puis un jour, ils se sont promenés si loin, tous les deux, que Dieu a dit, « C'est pas la peine que tu reviennes chez toi, tu vas venir chez moi ce soir. » Oh, j'aime ça. « Tu vas venir chez moi ce soir. » C'est un peu ça l'enlèvement de l'Église. « Tu vas venir avec moi maintenant. » Ça, c'est le... Et puis, Élie aussi a été enlevé sans mourir. Donc, c'est... Jésus a dit ceci en Jean chapitre 14. Vous connaissez ce passage. « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus a parlé là de l'enlèvement, mais les disciples n'ont rien compris. Hein. Les disciples n'ont pas compris du tout ce qu'on vient de lire là, qu'un jour nous serons enlevés sans mourir. Ils pensaient, d'après l'Ancien Testament, quand Christ allait revenir, la dernière résurrection, mais que tout le monde serait enlevé. C'est ça que les disciples ont compris. Ils n'ont pas compris tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Vous savez, au clair, qu'est-ce que c'est l'enlèvement? Au clair, ça veut dire que, non pas tout le monde, attention, hein, quand Jésus-Christ a dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, il ne voulait pas dire qu'il allait nous prendre tous. Ce n'est pas tout le monde qui va monter au ciel, non. Uniquement ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de Christ, qui ont été purifiés parce qu'ils ont tourné vers Christ, parce que Christ les a sauvés. Oh, j'aimais beaucoup ces deux garçons qui sont restés ce matin. Oh, ils étaient mignons, hein, Richard et Stephen. Ils sont venus et j'ai dit, Richard, pourquoi tu es venu? Je veux être sauvé. J'aime ça. Je veux être sauvé. Et ce matin, il a ouvert son cœur, il a laissé Christ entrer. Donc il est prêt maintenant. Si le Seigneur revient cet après-midi, il va partir. Oh, c'est ça qui est merveilleux. Ça s'appelle dans la Bible la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance. Vous savez, c'est prêché de moins en moins. On n'entend pas ça dans la plupart des églises maintenant. Les gens n'entendent pas. Moi, je l'attends tous les jours. Hein. Oh, ça me tarde qu'il revienne. Il va revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes sauvé, vous pouvez marcher dans la rue. Un de ces jours, vous allez marcher dans la rue, vous serez chez vous, je n'en sais rien. La trompette va sonner. Et tout d'un coup, vous serez changé dans un instant, enlevé avec lui dans les airs. Tout ça, dans un seul instant. Dans un clin d'œil, dit la Bible, dans un clin d'œil, changé dans un corps, vous allez glorifier, pas ressusciter, glorifier. Parce que ressusciter, ce n'est pas assez encore. Jésus est ressuscité avec un corps ressuscité, un nouveau corps, mais pas avec un corps glorieux. Il a pris son corps glorieux quand il est monté au ciel. Quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus, il l'a rencontré dans son corps glorieux. C'est pour ça qu'il était aveuglé. Il est tombé à plat. Il ne pouvait même pas voir. Il était aveuglé par la gloire de Christ. Nous allons avoir un corps glorifié, un corps semblable à Christ. Dans un instant, un de ces jours, nous allons partir. C'est ça l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, pas tout le monde, hein? Ceux qui lui appartiennent. Pas l'Église baptiste, pas l'Église catholique, pas l'Église protestante. Par l'Église, par le mot Église, ça veut dire tous ceux qui sont sauvés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, il y a un... Je vais maintenant vous attirer votre attention sur le passage que nous avons lu tout à l'heure. Ça disait à la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous avez vu ça? Le passage là, hein? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me rappelle de cette histoire. Il y avait le docteur Ironside, le célèbre docteur Ironside de cette grande église à Chicago, en Amérique. Et il a fini de parler de ce même sujet. Alors une dame s'approche de lui et dit, « Docteur, pourquoi les morts ressuscitent en premier lieu? » Oh là là, là là, là là. Alors, il a dit, « Vous savez, quand quelqu'un me pose une question... » et je ne connais pas la réponse, je dis toujours, si vous voulez répéter la question, ça me donne le temps de réfléchir. Alors, pendant qu'elle répétait la question, et parce qu'en Amérique, vous savez, on les enterre sous terre toujours, deux mètres plus bas. Hein. Il a dit parce qu'ils ont 2 mètres plus loin d'y aller. Alors, je ne sais pas si la dame a bien accepté cette réponse. Toujours est-il que moi, pendant des années, je n'ai pas cassé la tête pour savoir ce que ça voulait dire. Mais cette semaine, en préparant le message, j'ai cassé la tête. Hein? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Christ a voulu dire par cela? Vous savez que la meilleure façon de connaître la Bible, c'est par la Bible elle-même. C'est la meilleure explication. Et on trouve la réponse à cette question dans la Bible. Si vous êtes intrigué, comme moi j'étais intrigué, vous allez remarquer Matthieu chapitre 27. Matthieu 27 vous donnera la réponse. C'est dans le passage de la crucifixion. Je suis au verset 51. Je vais essayer de lire. Et voici, le voile du temple déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres, attention maintenant, hein. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, ça veut dire des gens sauvés, comme je vous ai dit tout à l'heure, des saints qui étaient morts, ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent, dans la ville, sainte, dans Jérusalem, et apparurent à un grand nombre d'hommes, grand nombre de personnes. Bon, je m'arrête là. Vous avez compris? C'est que quand Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité tout seul. Plusieurs ont été ressuscités en même temps. Pas tous, mais beaucoup se sont ressuscités. Probablement ceux qui sont morts assez récemment. Pourquoi? Pour paraître à leurs amis en disant, voilà, on est vivant. Je vous assure, hein, ça a dû effrayer pas mal. Hein. Vous êtes là, et on dit, bonjour Marie. Ah, ça, et voilà, une personne que vous avez enterrée il n'y a pas longtemps, peut-être 2 ou 3 mois, et là voilà. Alors, vous comprenez, ça a un effet quand même, hein, ça a un certain effet. Pourquoi je raconte ça? Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Quand Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux-là, en Matthieu 27, ils sont restés avec Jésus pendant 40 jours avant de monter au ciel. Hein, dans leur corps ressuscité, mais pas glorifié encore. Hein. 40 jours, ils avaient 40 jours pour paraître avec des gens, mais aussi... Me voici. Mais combien de jours est-ce qu'ils vont rester? Certainement, ceux qui seront ressuscités, peut-être ça ne va durer que 2-3 jours, j'en sais rien, mais Dieu n'aurait pas dit ils ressusciteront premièrement si c'était 2 secondes avant, ça va de soi. Ce n'était pas la peine, parce que ça serait pareil. S'il a dit les morts ressusciteront premièrement, c'est qu'ils seront ressuscités quelque temps avant. Nous, pour avoir un témoignage foudroyant dans le monde, quand les gens vont voir les gens ressuscités, se promener avec eux, vous allez dire, donc les gens vont se convertir les uns après les autres. Absolument pas. Pourquoi? Parce que ici, en Matthieu 27, il n'est pas dit que les gens se sont convertis quand ils ont vu des morts ressuscités. Non. Quand peut-être ils se sont convertis le jour de Pentecôte, quand Pierre a prêché. Pourquoi je dis tout cela? Je dis tout ceci parce que voir ne veut pas dire croire. Oh, c'est profond que je vais dire maintenant. Il faut que vous compreniez ce que je veux dire. Nous sommes nés pécheurs. C'est pas que notre mère était dans le péché quand elle nous a enfantés. Non. C'est-à-dire qu'on hérite une nature pécheresse, une nature en rébellion contre Dieu. Alors, même si on voit quelqu'un ressuscité, ça ne veut pas dire que notre cœur est prêt à croire. que notre cœur est prêt à céder, que notre cœur est prêt à dire, oh, j'ai péché, j'ai besoin de Christ. Non, 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 non. Pourquoi Dieu le fait? Pour fermer les bouches. Parce que les gens disent aujourd'hui, oh, si je voyais Christ, ah, ou si je voyais quelqu'un ressuscité. Vous connaissez ce passage-là en Luc 16, où il y a l'homme riche et Lazare, le pauvre, et ils sont morts tous les deux, et le riche est allé au paradis, et le pauvre, le riche est allé en enfer, et Lazare est allé au paradis, et il a dit, en voyant Lazare là-bas, il a dit, Père Abraham, envoie Lazare dans ma maison, parce que j'ai 5 frères, et je ne veux pas qu'ils viennent dans ce lieu. Et Abraham a dit, mais ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ah non, Père Abraham, mais si quelqu'un sortait des morts pour les avertir, pour qu'ils ne viennent pas ici. Et Abraham a répondu, il ne croirait pas même si quelqu'un des morts ressuscite. On n'est pas sauvé parce qu'on voit quelqu'un. Aujourd'hui, les gens, oh, si je voyais quelqu'un, alors là, qui est revenu de la mort? Oh, si je voyais quelqu'un qui revenait de la mort, je me convertirais tout de suite. Pas du tout. Non, parce que c'est une affaire du cœur. Si on ne veut pas se convertir, on ne se convertit. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je crois tout ça. Parce que vous prenez, par exemple, un ivrogne, père d'une famille, toujours ivre. Il arrive à la maison et puis casse tout et puis dit n'importe quoi et bat les enfants et tout cela. Et puis, un jour, il entre dans une réunion comme celle-ci et il se tourne vers Christ. Et Christ le sauve, pardonne ses péchés, le change totalement. Il arrive à la maison et il dit à sa chérie, je suis sauvé maintenant, tout va changer. Et tout le monde voit le changement en lui. Il prend sa Bible, il va à l'église, il prie. On voit ça, on voit ça. On n'a pas besoin de voir quelqu'un sortir de la mort. On voit le changement dans les gens. Vous croyez que dès qu'ils voient ça, que tout le monde va se convertir automatiquement? Ah non. Quelques-uns, oui. Mais il y a toujours des réductibles. Des gens qui disent non. Je ne vais pas le faire. Et ça, c'est la nature humaine. Non, Dieu va permettre les gens de paraître devant les gens pour montrer à la fin des temps, à cette deuxième résurrection, tu as vu quelqu'un ressusciter des morts et tu n'as pas cru quand même. Ils auront un double témoignage parce que non seulement les morts ressuscitent, mais les vivants disparaissent. Vous savez, ça a un impact. Ça a un impact. Est-ce qu'ils vont croire? Est-ce que ces gens-là vont croire? Je vais vous montrer un verset qui va vous étonner. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, regardons ça ensemble. Ce verset trouble mon propre cœur parce que je pense à ces gens-là. 2 Thessaloniciens 2. Alors, on va lire à partir de... Oh là là, je ne vois pas les versets là. Verset 9. Commençons là pour voir. L'apparition de cet impie, l'Antichrist. D'ailleurs, je vais parler de ça dimanche prochain. Oh là là, c'est... Ce message, la semaine prochaine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas rater ça quand je vais parler de l'Antichrist et tout ça. Toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges, les prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils ne voient, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité maintenant, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça, c'est quelque chose. C'est maintenant le moment d'être sauvé. Ce n'est pas après l'enlèvement. Je vous parlerai la semaine prochaine ce qui va se passer après l'enlèvement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, on va continuer avec ça. Quand ceci va arriver, quelle sera la réaction du monde? Qu'est-ce qu'ils vont dire une fois qu'on est disparu? Une fois que tous ces millions de gens sont disparus, il faut qu'ils trouvent des réponses quand même. Alors, pour ceux qui ont vu des morts, bon, écoutez, il faut aller voir un psychiatre. Parce que là, il est vrai, il y avait quelque chose dans l'atmosphère ce jour-là. Beaucoup ont eu la même chose. Vous n'êtes pas le premier, d'autres ont vu, n'est-ce pas? Mais vous savez combien de personnes ont vu Jésus au fond de leur lit, ou la Vierge Marie. Vous savez, c'est comment, n'est-ce pas? Ça passera. Calmez-vous, ne vous en faites pas, vous n'avez rien vu, voilà, c'est ça. Et en ce qui concerne tous ceux qui sont partis, ah, mais ça, les savants ont déjà la réponse. Ce sont des extraterrestres qui sont rentrés chez eux. Ils étaient ici pendant un temps, maintenant ils sont partis. Vous savez que les savants ont toujours une réponse à tout. C'est extraordinaire. Est-ce que vous avez vu leur expérience la semaine dernière? Vous l'avez vu ça, à la télé, tout ça. Oh, c'était incroyable. Ils ont essayé, avec cette grande machine, de trouver l'origine de l'univers. Il y avait quelque chose, il y avait une croissant qui est tombée dans la chose et ça a bloqué pendant un moment. Donc, finalement, ils ont enlevé le croissant et ça marchait mieux. Et à la fin, ils ont dit, maintenant, on sait. Maintenant, ce n'est plus un mystère. On a tout maintenant. Et il y a quand même un facteur. Écoutez ceci. Il y a le facteur Dieu qu'on appelait Dieu, le facteur Dieu qu'on n'a pas compris. D minuscule. Le facteur D. Ceux qui ne comprennent pas, c'est comment une explosion dans le vide, parce que l'espace est vide, peut produire des myriades et des myriades et des myriades d'étoiles et des planètes qui circulent avec une précision telle qu'aucune horloge sur Terre ne peut égaler. Ça, ils n'ont pas compris, mais ils ont compris tout le reste. Mais tout le reste n'est rien, ça c'est l'idée. Si on n'a pas une réponse à cela, on n'a pas de réponse. Dieu a créé l'univers, et sans Dieu, il n'y avait pas de l'univers. Mais la science a toujours une réponse. Alors, quand ils vont dire, oui, mais c'est vrai que des gens sont parus, mais vous êtes allés voir le cimetière, tous leurs tombeaux sont ouverts et leurs corps ne sont pas là. Oui, mais bref, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Vous savez, les médias cachent la moitié des choses. Ils ne vous disent ce qu'ils veulent vous dire. Il y a tellement de choses cachées, et ils vont cacher ça aussi. Ils vont oublier le fait que les sépulcres sont ouverts et que les corps sont disparus. Ils vont ignorer beaucoup de choses. Combien c'est merveilleux d'avoir la Bible. Combien c'est merveilleux de connaître Christ et de ne pas être trompé par les hommes avec toutes leurs idées et tout cela, mais de pouvoir marcher avec lui. C'est ça ce qui est merveilleux. Vous savez, on peut voir qu'est-ce qui se passe aussi avec des familles. Qu'est-ce qui se passera avec des familles? quand il y aura l'enlèvement. Je pense à une mère qui a des enfants, à qui elle a dit, vous savez, un de ces jours, je risque de partir. Si la trompette sonne, je vais partir. Est-ce que tu ne veux pas accepter le... Oh, maman, tu sais, tout ça, c'est rien, ça. Il ne faut pas y croire à tout ça. Oui, mais la Bible dit, Dieu l'a dit, et moi je crois. Et j'ai mis toute ma confiance en Dieu. Et je sais que quelque chose va se passer. Un jour, elle sera avec ses enfants, peut-être simplement avec un fils à ce moment-là. Et elle est en train de lui parler. Et tout d'un coup, la trompette sonne. Et elle disparaît devant son fils. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Il va comprendre tout de suite ce qui est arrivé, parce qu'elle en avait déjà parlé. Il sera là, comme foudroyé par la chose. Son fils est parti. Et moi, je suis laissé derrière. Laissé derrière. Il y a quelqu'un qui a écrit tout un livre là-dessus. Laissé derrière. Laissé derrière quand tout le monde est parti et on est là. On est là en train de faire face à la tribulation, à l'antichrist, aux terreurs qui vont suivre tout seul. Je pense à un garçon qui, avec ses camarades, vont partir au camp. Ils vont dormir sous des tentes, ils vont faire des feux de camp, oh là là. Ils vont passer deux semaines auprès d'un lac avec une forêt tout autour. Oh là là. On rêve de ça, des garçons rêvent de ça. Alors, il se prépare, il fait tout, absolument tout. Mais quelque chose arrive, et le matin où le bus part avec tous ses camarades, il arrive une demi-heure trop tard. Laissé derrière. Quel sentiment touche le cœur de quelqu'un? Je suis laissé derrière quand j'aurais pu partir avec. Laissé derrière quand j'aurais pu être maintenant au ciel avec ma main, avec les autres. J'aurais pu être là, mais je suis ici. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y serez aussi. Moi, je vous demande une chose. Est-ce que vous y serez? Est-ce que vous serez avec le Seigneur au ciel? Vous savez qu'à la fin de ces réunions, je vais toujours donner un appel. Parce que le but final, c'est de peupler le ciel autant que possible, d'avoir autant de monde possible qui monte avec nous. Alors, je vais demander dans un instant à David de nous faire chanter un cantique. Mais pendant qu'il chante, ou après qu'il chante, si vous voulez, moi, je vais dans le bureau, parce que dans le bureau,